Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous. La guerre en Iran doit en ravir certains. Les projecteurs sont maintenant braqués à des milliers de kilomètres de la France, enterrant presque totalement l'actualité dramatique qui a sévi les semaines passées. Mais qu'à cela ne tienne, on va en rajouter une couche et parler de quelqu'un qui se cache. Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, chef de la Jeune Garde, cette milice d'extrême gauche dont les membres sont impliqués dans le meurtre de Quentin. Alors posons une question simple. Où est-il ? Personne ne le sait. Il a disparu, mais ce n'est pas le plus grave. Le scandale, c'est qu'on découvre qu'il n'a jamais déclaré ses assistants parlementaires, comme le révèle l'ancien magistrat Charles Pratt sur Tocsin.
Nous nous sommes rendus compte, après toutes les révélations au sujet de Raphaël Arnaud et vous savez, de ses assistants parlementaires, notamment les deux qui ont été placés en détention provisoire pour des faits de meurtre, donc du jeune Quentin, donc des faits criminels, hein, il faut quand même le rappeler. Tout le monde a l'impression que dans les médias, on oublie un petit peu qu'on est sur les plus hautes qualifications pénales encourues. Et donc, on s'est rendu compte que les deux assistants parlementaires en question qui étaient mis en examen et incarcérés, ils n'étaient pas déclarés par Raphaël Arnaud auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. Or, vous savez que depuis un certain nombre de lois...
C'est obligatoire de le faire ?
C'est obligatoire. En fait, c'est comme pour les déclarations, vous savez, d'intérêt. Savoir où est-ce que vous avez des actions, etc., des patrimoines et compagnie. Le fait de ne pas le faire, c'est 3 ans d'emprisonnement et la privation des droits civiques.
Et ça continue. Sa déclaration d'intérêt est mensongère. Il aurait employé secrètement d'autres membres de la Jeune Garde, selon l'avocat Guilhem Carayon.
Donc on a saisi hier la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, pour faire la lumière sur la déclaration d'intérêt du député Raphaël Arnaud et celle de ses collaborateurs parlementaires. On a relevé 3 irrégularités, 3 omissions dans sa déclaration d'intérêt. La première, c'est le fait qu'il n'a pas actualisé sa déclaration d'intérêt en disant qu'il n'était plus porte-parole de la Jeune Garde, ce qui est une violation du code électoral. La deuxième, qui est plus grave, c'est le fait que son collaborateur, un de ses collaborateurs, n'a pas mentionné ses activités au sein de la Jeune Garde, alors que toutes les activités bénévoles doivent être mentionnées. C'est une autre violation du code électoral. Et la troisième, qui est encore plus grave, c'est le fait qu'il y a une discordance entre la liste des collaborateurs parlementaires sur la HATVP et la liste des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud sur le site de l'Assemblée. Donc en fait, vous avez certains collaborateurs qui ne sont pas mentionnés, alors même que c'est une obligation formelle.
Des assistants parlementaires qui ne viennent plus travailler, emploi fictif, milice violente, député disparu, le CV est bien rempli. Quoique, un petit détail dit tout de ce privilège rouge. Rappelons la condamnation définitive de Raphaël Arnaud pour violence volontaire en réunion il y a quelques années, une agression à 6 contre un jeune de 18 ans isolé. Je laisse le journaliste Thomas Soto sur RTL nous donner la suite.
Raphaël Arnaud, il a été condamné à 4 mois de prison pour violence en réunion, c'était en 2022. Condamnation, précisons-le, qui n'a pas été inscrite à son casier. Mais au-delà de son cas, est-ce qu'il faut changer la règle ? Est-ce qu'il faut exiger un casier judiciaire vierge pour pouvoir être député ? C'était d'ailleurs une promesse d'Emmanuel Macron en 2017.
Condamnation définitive non inscrite à son casier judiciaire. Condamné, mais casier vierge. Magnifique. Le privilège antifa. Pendant que des Français se voient refuser un emploi pour un excès de vitesse, lui, condamné pour violence en réunion, à un casier immaculé. D'ailleurs, Catherine Jouan, ex-députée RN, battue par Raphaël Arnaud, politiquement j'entends, aux dernières législatives, raconte sa campagne pour le moins agitée.
C'est moi qui ai fait la campagne contre Raphaël Arnaud et qui ai subi ces violences psychologiques, non pas physiques directement, mais psychologiques. Ça a été extrêmement compliqué, puisque la Jeune Garde a envahi la ville pour soutenir son champion. Et donc, ils usent de méthodes d'intimidation de différentes manières.
Alors justement, de quelle manière cette intimidation s'exerçait ?
Alors par exemple, lorsque vous êtes sur un marché, que vous essayez de discuter avec les commerçants par exemple, ils se mettent à 50 cm de vous, vous braquent, envahissent votre espace vital, ce qui fait que évidemment, ils ne vous regardent pas gentiment, donc ça fait peur. Et à force, on est complètement démotivé et harcelé moralement et évidemment.
Donc il y avait des
ensuite,
militants.
Je les ai retrouvés sur mon palier.
Ah bon ?
Oui, allez-y, je vous en prie.
Non, sur votre palier, pourquoi étaient-ils sur le pas de votre porte ?
Eh bien, ils avaient trouvé l'endroit où j'habitais, alors que l'immeuble avait un double vidéoportier, donc une sécurité absolue. Et ils avaient réussi à rentrer. Je pense que c'est d'autres personnes qui leur avaient ouvert dans l'immeuble. Et alors qu'il n'y avait pas mon nom sur la porte, donc ils m'avaient suivi, bien évidemment, ils ont trouvé ma portée. Quand on leur a opposé une fin de non-recevoir, ils ont commencé à tambouriner sur la porte, voilà, entre autres. plus des graffitis antifa, mort aux fascistes sur la façade de l'immeuble.
Sans doute la méthode la plus efficace pour remporter les élections, la peur, la violence, l'intimidation, et tout ça dans l'impunité la plus totale. Mais face à ce scandale, face à cette impunité, quelle est la réaction? Le déni, le mensonge et la manipulation. Mathieu Bock-Côté dénonce le traitement médiatique de l'affaire Quentin.
L'ultra-gauche lynche à mort un jeune homme. Très rapidement, le récit médiatique met en scène en fait le double danger de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Très rapidement, dans la même semaine, on nous explique que le véritable danger serait dans la marche qui viendra une semaine plus tard. Marche qui serait en fait une marche d'extrême droite témoignant du retour du fascisme et du nazisme en France. Et au terme de cette semaine, le récit médiatique dominant consiste à nous dire que le véritable danger, encore une fois, sans surprise, c'est ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et à partir de là, la nécessité de la combattre à tout prix. Donc à partir d'un mort causé par l'ultra-gauche, en dernière instance, le danger qui nous est présenté, ce serait le retour du fascisme en France. Je ne peux y voir autre chose qu'une falsification médiatique à grande échelle.
Un renversement total. On comprend mieux pourquoi Raphaël Arnaud et sa bande peuvent agir en toute tranquillité. La complicité du récit médiatique ne fait plus aucun doute et explique en partie cette rupture profonde qu'elle creuse avec son public. L'ancien porte-parole de Reconquête, Antoine Dirs, rétablit quelques faits.
Aujourd'hui, tout est d'extrême droite. Dès qu'on parle d'immigration, de sécurité, tout est d'extrême droite. Donc moi, je retiens une chose, c'est libérer la parole. Libérer la parole. C'est-à-dire que la parole était effectivement emprisonnée avant. Elle était capturée par certains de gauche, intelligents, comme vous dites, qui étaient les seuls à avoir le droit de parler. Et les gens arrêtaient de regarder ces émissions où on entendait toujours la même chose. L'immigration est une chance pour la France, vraiment. Et donc, les gens se rendaient compte que ça n'avait plus aucun sens. Et donc, enfin, on a effectivement libéré la parole. Libérer la capacité à parler du réel. Et donc moi, je ne pense pas qu'il y ait une droitisation. Il y a une normalisation des médias qui, puisque plus personne ne les regardait parce qu'ils racontaient des choses qui ne correspondaient pas à la réalité, ont dû s'adapter pour parler de la réalité.
Et d'ailleurs, sur ce point, nous recevions la semaine dernière le communicant Arnaud Stéphan, qui a dévoilé comment fonctionnent de l'intérieur certains médias. Entretien passionnant que je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube.
Vous avez immédiatement les petites mains dans les médias, qui sont souvent issus d'écoles de journalisme, où ils ont été très bien formés par des professeurs issus beaucoup de la France insoumise ou de la gauche en général, de sociologues, etc. Et il y a l'armée de réserve de la France insoumise qui se met en marche, celle qui est très introduite dans les médias, les petites mains, celles qui vont faire les invitations sur les plateaux. C'est celles-là qui sont redoutables. C'est pas forcément les chefs de service, les rédacteurs en chef. Faut pas penser qu'il y a une espèce de complot permanent dans les médias. Il y a ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le choix des invités ou la proposition des invités. Si on vous dit, tiens, j'aimerais bien avoir tel sociologue, plutôt centriste ou de droite, et puis les personnes qui s'occupent des invités vous disent, ah ben non, il n'est pas disponible. Oui. En revanche, on a un professeur à Paris 8 qui est très très bien, puisqu'en plus je le connais, ça a été mon professeur et mon chef de section, et mon chef de ça, pardon, je voulais passer à ce que je voulais dire. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des plateaux qui sont complètement délirants.
Parce que le système Arnaud n'est pas un cas isolé, c'est une méthode. Charles Alloncle, député, pose des questions de plus en plus gênantes sur France Télévisions. Un député macroniste pète les plombs.
Et on va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député.
T'inquiète, on va te régler, dit Erwan Balanant à mon propos. T'inquiète, on va te régler. Bon, c'est quoi, c'est une menace, monsieur Balanant?
Monsieur
Balanant, t'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète, monsieur le président, si vous pouvez me laisser.
Menace physique à l'Assemblée nationale. Voilà ce qui arrive quand on pose les bonnes questions, quand on touche au vrai pouvoir. L'intimidation ne vient pas que de l'extrême gauche, elle vient du système tout entier. Et face à tout ça, quand on essaye de dénoncer, on vous traite de complotiste. Et ce, quel que soit le sujet. Par exemple, Marlène Schiappa, ex-ministre, peine à se justifier de sa gestion foireuse du fameux fonds Marianne face à Charles Consigny.
Vous, ça fait 10 ans que vous dites qu'en gros, soit on vote pour les macronistes, soit on est un nazi.
Moi, personnellement
Un fasciste. Oui,
pas du tout.
Oui, je suis désolé, à toutes les dernières élections, soit on votait pour En Marche ou ses satellites, soit on était un nazi. Complotiste, fou furieux, qui n'était bon qu'à une assignation à résidence. Non, non. Vous, Madame Schiappa, vous aviez quitté la vie politique il y a quelques années, 2 ans. Je veux pas être désagréable, mais à cause de cette sombre histoire du fonds Marianne, qui quand même...
C'est plus compliqué que ça, là aussi.
Bon, enfin, quand on regarde, c'est quand même pas génial. Et quand on lit le rapport du Sénat que j'ai lu pour préparer cette émission... honnêtement, on se dit, bah oui, il faut une alternance. C'est-à-dire que quand on a des gens qui se gèrent comme ça les ministères dont ils ont la responsabilité,
Je veux bien répondre.
Non, je
vous en prie, vous me mettez en cause personnellement sur des faits qui remontent à il y a près de 3 ans.
Je veux bien répondre parce que, s'il vous plaît,
Charles Consigny, la question.
C'est ça qui nécessite du changement. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent changer d'équipe.
Votre raisonnement est un peu abrupt parce que moi, je ne candidate pas pour revenir au gouvernement et vous voulez commencer par dire qu'il faut changer Anne Hidalgo en m'attaquant personnellement sur des faits qui ont donné lieu à un certain nombre de fake news et de théories complotistes.
Crier au complotisme,
franchement, le rapport
du Sénat, il est complotiste.
Le complotisme, l'arme ultime pour discréditer, pour faire taire, pour éviter de répondre. Mais certains osent enfin dire les choses clairement. Revenons à gauche, avec Paul Amar qui appelle à mettre LFI en quarantaine.
Quand un homme politique essaye de conquérir le pouvoir, il s'appuie sur le peuple qui va séduire. Et s'il a envie d'être dictateur, il ôte le masque une fois élu. Ou une fois arrivé au pouvoir, on l'a vu avec Khomeini, on l'a vu avec Staline, on l'a vu avec Hitler. Là, ils annoncent la couleur avant. Avant. Voilà un parti qui protège une jeune garde qui a assassiné le jeune Quentin. Voilà un parti qui dit aux journalistes, allez, taisez-vous.
Les mines de sel pour tout le monde.
Exactement. Voilà un parti, Mathilde Panot, qui dit, moi, le résultat de l'élection présidentielle 2027, je vais peut-être le contester. Donc voilà un parti dictatorial, comme si au fond, Mélenchon ne voulait pas du pouvoir. Donc je ne comprends pas que la classe politique que j'ai évoquée tout à l'heure ne le mette pas d'ores et déjà en quarantaine, parce que ce parti-là a tous les germes d'une dictature potentielle et il annonce la couleur avant.
Mais les mots sont posés, bien sûr, mais comme je l'ai dit plus tôt, tout un système médiatico-universitaire les protège. Il n'y a qu'à voir ce spécialiste, entre de très grosses guillemets, qui sort un chiffre hallucinant sur les membres du Rassemblement National en prison.
Je le rappelle, 10% des gens qui sont en prison aujourd'hui sont membres du Rassemblement National. Et ça, c'est passé un petit peu comme une lettre à la poste. Et puis là, c'est un drame absolu, ça n'aurait jamais dû arriver. Si l'antifascisme était resté ce qu'il était au départ, ça n'aurait pas dû arriver.
10% des gens en prison seraient membres du RN. Un chiffre tellement délirant qu'il en devient comique. Mais voilà, le niveau du débat. Pendant qu'Arnaud disparaît avec son casier vierge, on invente des statistiques délirantes sur le RN. Et tout ça a des conséquences. Un entrepreneur français vivant aux États-Unis raconte ce qu'il entend des investisseurs américains qui observent attentivement la France.
Pour des raisons que je ne peux pas dévoiler maintenant, mais je fais le tour des plus gros investisseurs américains. Je pense que j'en ai vu une centaine depuis 2 mois, des plus grosses boîtes américaines, etc. Ce qui les inquiète le plus, ça n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui, c'est la dérive de radicalisation islamique qui leur fait très peur. C'est ce qui le sujet numéro un qui les refroidit sur l'Europe en disant vous êtes en train de perdre totalement, notamment la face, vos cultures et vos valeurs. Et ça, c'est un sujet numéro un aux États-Unis. Je pense qu'on malheureusement on n'a pas bien compris en Europe. On voit ça sous notre nez. C'est peut-être trop près.
Il n'en faudra pas plus pour scandaliser l'ensemble du plateau de LCI qui très vite recadre son invité.
Denis Jacquet, peut-être ils sont devenus racistes aussi, non? Les Américains, pardon,
je
pense qu'on est, il y a eu, on a connu des attentats en France, etc. Mais enfin, dire que le pays est en proie à la radicalisation islamique, bon, je pense qu'il y a un petit chemin. Alors que J.D. Vance le pense, qu'une partie de tous les fachos qu'il y a autour de Trump le pense, ça m'étonne pas tellement. Ils pensent déjà que leur pays est aux mains des wokistes. Mais enfin, de là, moi, je pense à nos compatriotes musulmans qui nous écoutent ce midi, qui se prennent ça en plein ramadan. Vous savez quoi? On les aime, en fait. Et on est très contents qu'ils soient là.
Je pense que, en réalité, c'est ce discours qui nous rend aveugles. C'est-à-dire qu'en gros, pour une majorité de musulmans qui posent aucun problème, moi, j'ai vécu au Maroc, je connais très bien ce pays, je sais comment ça marche. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, la radicalisation, elle est réelle. Elle est palpable. Alors, et quand
c'est
vous
pas,
avez
c'est
dans
pas
un
le,
pays
c'est
un débat...
C'est pas le sujet du jour.
Vu des réunions, il y a peut-être cette impression, mais qui n'est pas du tout une réalité.
Comment voulez-vous attendre une avancée quelconque sur ces sujets qui rendent fous politiques et journalistes à la simple entente d'un constat objectif? Ce pays est dirigé par des naïfs, qui se font bouffer de toutes parts, même dans le virtuel. Je laisse la parole à un spécialiste du piratage qui raconte comment nos données ne sont absolument plus protégées.
Vous avez au moins vécu entre 3 et 4 fuites de données sur ces 10 dernières années. D'ailleurs, ça se
vérifier assez facilement. Vous devez au quotidien recevoir soit les SMS, soit être harcelé au téléphone, et ce n'est rien d'autre que la résultante de ces fuites de données. Je pense qu'il va falloir même que je revoie cette formule-là. C'est plus un jour une cyberattaque, un jour une fuite de données, mais c'est plutôt un jour une multifuite. Rien que ce matin, on a encore 3 organismes, dont des fédérations françaises, qui ont été piratées. Donc pour parler un peu de cette ampleur-là, je pense qu'elle est juste sans précédent. Et pour donner un autre ordre d'idée, Timothée, dites-vous qu'aujourd'hui en France, on n'est pas souvent premier, mais hélas, on est premier aujourd'hui en Europe sur ces fuites d'informations, tellement elles sont de partout et tous les organismes sont touchés.
Et pour comprendre comment un tel amateurisme peut se produire, il faut écouter le criminologue Xavier Hofer qui a balancé quelques vérités sur TV Liberté.
Alors que les piratages les plus affreux se président, vous voyez que le fichier central des comptes bancaires, le FICOBA, a été piraté là, il y a même pas 2 semaines, et qu'on s'est fait piquer 1 200 000 noms, et donc il y a des gens qui vont être soumis à des chantages informatiques. Alors pourquoi tout ça est possible? Pourquoi on a piraté les fichiers des flics aussi, c'est-à-dire le
ministère de l'Intérieur,
la plateforme du ministère de l'Intérieur? Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas le protocole européen NIS 2. Et pourquoi ne l'applique-t-on pas? Parce que, cyniquement et de façon quasiment dictatoriale, la présidence de la République et le domestique qu'ils ont mis comme Premier ministre, là, ne veut pas le faire parce que ça interdirait au renseignement intérieur, là aussi, cyniquement détourné de sa mission, de fliquer tout le monde en allant voir sur tous les réseaux sociaux, d'ouvrir tous les comptes sur Internet et de lire toutes les correspondances entre citoyens français.
On le voit, tout est sous nos yeux. Leur volonté de nous espionner surpasse notre sécurité. Leur folie de s'obstiner à nous imposer leur vivre ensemble jusqu'à en choquer les investisseurs étrangers. Tout cela avec la complicité active de nervis de gauche qui peuvent frapper autant qu'ils veulent, se sachant protégés par ce système trop occupé à nous fliquer. Voilà ce qu'ils sont, voilà ce qu'ils font. Reste à savoir si les Français finiront par ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.
Merci Louis.
Merci Lisotte.
Ligne droite, l'analyse.
Et on poursuit avec l'analyse de Xavier Van Liert. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Lisotte.
Alors vous vouliez revenir Xavier Van Liert aujourd'hui sur l'hystérie antifasciste de la gauche.
Oui, je voudrais revenir sur l'hystérie antifasciste de la gauche, car c'est bien à cela qu'on a assisté depuis 2 semaines, et puis depuis l'assassinat du jeune militant identitaire lyonnais Quentin Derenque. Et je voudrais aussi mener une petite réflexion sur ce slogan qu'on entend ad nauseam depuis, le slogan « Nous sommes tous antifascistes ». Alors non pas pour disserter sur le caractère à la fois présomptueux, mensonger, pour tout dire grotesque, de cette appellation antifasciste, d'autres l'ont déjà fait, et avec talent, et sur cette antenne, donc il n'est pas utile d'y revenir. Donc ce qui me semble plus intéressant, c'est de questionner dans ce slogan, c'est le mot « tous ». Car vous l'avez remarqué, le slogan ne dit pas « nous sommes antifascistes, libre à eux », mais bien « nous sommes tous antifascistes ». De la même façon, dans d'autres slogans célèbres de gauche, les militants ne disent pas « je déteste la police », mais « tout le monde déteste la police ». Ou encore « tout le monde déteste le Rassemblement national ». Il y a donc, à l'évidence, chez les gens de gauche, une sorte de manie obsessionnelle à prétendre que leurs lubies, leurs mots d'ordre sont partagés par tout le monde. Or, à l'évidence, ce n'est pas le cas. Pour ne prendre qu'un exemple évident, quand même assez difficile de penser que tout le monde déteste le Rassemblement national, puisque pour rappel, la cote de popularité de Jordan Bardella aujourd'hui, c'est 45%, et celle de Marine Le Pen, 42%. Donc bon, on est quand même assez loin du compte. Alors du coup, comment expliquer cette manie de la gauche de prétendre que tout le monde pense comme elle, et aussi à vouloir censurer, voire casser la gueule, comme on l'a vu, à tous ceux qui ne pensent pas comme elle? La réponse se trouve peut-être dans une enquête récemment publiée aux États-Unis et exhumé par le site Atlantico à propos des opinions politiques des étudiants américains. Les auteurs ne sont pas des chercheurs en sciences politiques, mais des chercheurs en psychologie clinique. Alors leur étude portait sur la façon dont l'autocensure pouvait contribuer pour des étudiants américains de sensibilité conservatrice à les déstabiliser et à leur causer un mal-être en raison de la pression idéologique quasi totalitaire exercée par des professeurs de gauche et d'extrême-gauche. Car évidemment, aux États-Unis comme en France, vous en doutez bien, l'immense majorité des professeurs sont de gauche et d'extrême-gauche. Alors dans le cadre de leurs recherches, ils ont donc questionné quelques 1500 étudiants de 2 universités du nord des États-Unis. Et les résultats sont proprement sidérants, puisqu'ils ont permis de mettre en évidence que pas moins de 88% des étudiants, pas seulement 88% des étudiants conservateurs, 88% de l'ensemble des étudiants, eh bien, déformaient ou dissimulaient leurs véritables convictions afin de passer pour plus progressistes et plus à gauche qu'ils ne le sont réellement. Je prendrai qu'un exemple. Alors que 87% des étudiants interrogés ne partagent pas les théories sur l'identité de genre et l'idéologie LGBT, seuls 9% osent affirmer cela sur leur campus. Les autres 78% dissimulent leurs véritables convictions par peur des représailles de la part de leurs professeurs et de leurs camarades de campus. Alors le phénomène, évidemment, bien humain, il est bien connu, il est même inscrit au plus profond de la nature humaine, puisque l'homme étant, vous le savez, l'islot, un animal social, eh bien, il déteste être mis au banc du groupe. Pour conserver sa place au sein de ce groupe, eh bien, pour ne pas être condamné à la mort sociale, eh bien, il est donc prêt à adopter, au moins en apparence, les croyances qu'il estime dominantes au sein de son groupe social. Alors, cette dynamique conformiste se déploie en réalité de la façon suivante, en trois temps. Premier temps, l'individu cherche à identifier les idées dominantes dans son groupe. Deuxième temps, s'il se croit minoritaire, il tait ses propres convictions par peur de l'isolement. Troisième temps, mais par son silence, il renforce ainsi la puissance des idées qui ne sont pas les siennes en laissant croire eh bien, qu'elles font l'objet d'une sorte de consensus. Et c'est ce que la sociologue Elisabeth Noël Neumann appelle la spirale du silence, avec un point capital à noter. L'individu ne se soumet pas aux idées réellement dominantes, mais aux idées qu'il perçoit comme dominantes. Et c'est bien ce qu'il se passe sur les campus américains, évidemment sur les campus français, et bien au-delà dans l'ensemble des sociétés occidentales. Les étudiants ou les citoyens de sensibilité conservatrice se soumettent peu ou prou aux idées progressistes parce qu'ils se croient minoritaires, alors qu'en réalité, ils sont souvent déjà majoritaires. Ce qui dicte le comportement social et les idées assumées publiquement, c'est bien la perception que l'on a du rapport de force idéologique. Car la propension humaine au conformisme n'explique évidemment pas tout dans cette dissimulation. Elle se produit dans un contexte, ça n'a échappé à personne, et surtout pas depuis 15 jours, dans un contexte où la gauche revendique ouvertement son intolérance et exerce des pressions, y compris physiques, bien réelles sur les déviants. Les étudiants américains ou français de droite savent très bien que s'ils sont découverts, ils ne risquent pas seulement l'isolement social, le rejet de leurs camarades, mais carrément de ne pas poursuivre leurs études. Bah oui, hein, dans de nombreuses universités, les croyances idéologiques les plus échevelées de la gauche ne sont pas de simples opinions, elles ont le statut désormais de vérité académique. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait neuf. On se souvient que dans les années 60 déjà, chacun savait qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, parce qu'avoir tort avec Sartre permettait d'avoir de bonnes notes, tandis qu'avoir raison avec Aron exposé à ne pas obtenir son diplôme. Pour un prof de gauche, un étudiant de droite n'a pas seulement tort, il a carrément faux. Et bien sûr, cela a encore cours aujourd'hui, même un peu aggravé. Et pour le comprendre, il suffit de remplacer Aron par Camus. Pour un étudiant, un journaliste, un manager, il vaut mieux ne pas avoir raison avec Renaud Camus, car je parlais bien de Renaud Camus. Il ne faut pas constater le grand remplacement, il faut dire que c'est une théorie raciste, conspirationniste, d'extrême droite. Pour survivre dans un campus universitaire occidental, l'étudiant de droite, mais aussi le professeur de droite, n'a donc souvent pas d'autre choix que de pratiquer le camouflage, la dissimulation, un peu d'ailleurs à l'image des intellectuels de l'ex-bloc soviétique. Et c'est pourquoi je voudrais poursuivre cette réflexion en évoquant certains penseurs du totalitarisme, et notamment ceux qui ont développé leur pensée pendant la guerre froide. Je pense notamment à Czeslaw Milosz, désolé si je ne prononce pas bien son nom, Czeslaw Milosz, qui dans son ouvrage « La pensée captive » observait que sous le communisme, la plupart des intellectuels polonais savaient que l'idéologie marxiste-léniniste était totalement mensongère, mais la soutenaient quand même publiquement par peur de ruiner leur carrière ou simplement leur réputation. L'un des points clés de l'analyse de Milosz est de montrer que, contrairement à ce qu'on croit trop souvent, le totalitarisme n'a en réalité pas nécessairement besoin de moyens de répression féroces pour s'exercer et obtenir la soumission des intellectuels. Les intellectuels polonais, qui étaient soumis, ne redoutaient pas nécessairement la police ou la déportation au goulag, et Milosz observe avec tristesse que la crainte de ne pas obtenir un poste, une promotion, une distinction, ou celle de ne plus être publié suffisait souvent à obtenir la docilité et l'adhésion apparente de ses collègues au dogme idéologique du régime. Et c'est le point clé, car il montre que, comme l'a bien perçu Mathieu Bock-Côté, il peut y avoir un totalitarisme sans le goulag, et que c'est bien ce totalitarisme-là qui s'exerce aujourd'hui en Occident. Tout simplement parce qu'il existe un coût social à professer des idées dissidentes, voire simplement à feindre même la neutralité ou le désintérêt, car ce qui est recherché et souvent obtenu, c'est l'adhésion. Alors cette notion de coût social oblige à aborder un dernier penseur du totalitarisme, l'économiste Timur Kuran, qui lui, dans son ouvrage, vous voyez, qui est vraiment pleinement dans le sujet, puisque le titre c'était « Vérité privée et mensonge public », eh bien lui il s'est précisément penché sur les mécanismes qui peuvent conduire des individus à falsifier leurs préférences. Et en bon économiste, eh bien, Timur Kuran estime que les individus sont des êtres rationnels et que, donc, en toutes circonstances, ils cherchent à maximiser leurs profits. Si bien que face à ce qu'il appelle le marché des idées, eh bien, ils vont peser soigneusement les coûts et les bénéfices de chacune. En d'autres termes, excepté quelques héros de la vérité, la plupart des individus, pensent-ils, vont préférer adopter des idées fausses mais qui rapportent gros plutôt que des idées vraies qui coûtent très cher en termes de carrière, de réputation, etc. Pour Timur Kuran, les idées ayant un très fort coût social disparaissent donc progressivement de l'espace public pour ne plus être professées que dans la sphère privée, et encore. Alors à l'issue de ce tour d'horizon, il est peut-être temps que je revienne à la question initiale. Comment expliquer que la gauche s'attache tant à prétendre, contre toute vraisemblance, que ces idées sont majoritaires et que nous serions tous antifascistes et que tout le monde déteste la police et que tout le monde déteste le Rassemblement National? Eh bien, probablement parce que, instinctivement, elle sait que sa domination dépend de façon absolument vitale de ce simulacre de majorité. Comme les étudiants américains conservateurs, les citoyens ou les étudiants français de droite ne se soumettent à la gauche que parce qu'ils se croient minoritaires. Pas nécessairement à l'échelle du pays, ils voient bien les sondages, comme tout le monde. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est que chacun se croit minoritaire dans son milieu social ou professionnel. Ce qui compte, c'est que chacun pense que dans son université, dans son entreprise, dans sa ville, dans son club de sport, en gros, dans son groupe social, il serait minoritaire. En hurlant donc « nous sommes tous antifascistes » ou « tout le monde déteste le RN », la gauche tient donc à réactiver cette peur profondément inscrite au cœur de l'esprit humain, la peur de l'isolement social, donc décrite par Elisabeth Noël-Neumann, en créant cette illusion de majorité factice et de consensus pour les idées de gauche et d'extrême-gauche. En réclamant la censure de tous les médias, personnalités qui pensent différemment d'elle, en faisant en sorte de salir la réputation, en les traitant de fachos, de nazis, elle vise à maintenir également un coût social élevé pour toutes les idées qui ne sont pas les siennes. Et cela explique certainement, à mon sens, aussi le soutien totalement incroyable dont bénéficient les fameux antifa du style jeune garde, de la part de toute la gauche et même d'une grosse partie du centre. Car les antifa, dans ce tableau, ont un rôle spécifique à jouer, qui joue d'ailleurs de façon prépondérante sur les campus universitaires, dissuader toute personne d'exprimer une opinion divergente par rapport à la doxa de gauche, en lui cassant tout simplement la gueule. Parce que les antifa et leur soutien savent, eux savent, que la libre parole de quelques-uns suffirait à réveiller et libérer tout le groupe. Alors ils cognent pour éviter cette contagion de la liberté. Et lorsque je dis ça, je n'invente absolument rien, car ce rôle spécifique de capot de la pensée a été littéralement théorisé par un antifa américain du nom de Mark Bray, auteur d'un manuel de l'antifascisme. Alors pour ce charmant démocrate, c'est simple, il ne faut pas convaincre les fameux fachos, mais plus simplement les vaincre, c'est-à-dire leur casser la gueule pour les chasser de l'espace public. Car pour lui, le terrain politique, ce n'est pas un lieu de débat, c'est une sorte de territoire qu'il faut occuper de façon hégémonique, car l'apparition d'un seul contestataire pourra entraîner la débâcle. Et la suite lui a d'ailleurs donné raison, puisque, comme on le sait, l'apparition d'un seul Charlie Kirk sur les campus américains a suffi à libérer la parole de milliers et de milliers d'étudiants américains conservateurs. Et donc, on peut dire que l'assassinat de Charlie Kirk n'est en réalité rien d'autre qu'une mise en pratique du manuel antifasciste de Mark Bray. Alors, tout cela n'est évidemment pas très réjouissant, mais souligne toutefois un point intéressant, c'est que l'hégémonie de la gauche est parfaitement artificielle. Elle est en fait une sorte d'illusion que quelques paroles libres pourraient conduire à l'effondrement. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi, à mon avis, l'annonce de très graves tensions que l'hystérie actuelle de la gauche va provoquer dans le pays et dont elle n'offre aujourd'hui qu'un avant-goût. En effet, plus la gauche prendra conscience de sa position minoritaire et plus elle va frapper dur pour tenter de maintenir le couvercle. Voilà donc prévenu, la victoire est à portée de main, mais elle va demander un peu de courage.
On va pouvoir en reparler. Merci Xavier Vallenert pour cette analyse. On revient dessus. Sur le premier point que je voulais revoir avec vous, c'est cette impression de minorité qui, en fait, est le fondement de tout. Quand vous nous disiez que tout part d'une impression, en réalité, c'est aussi très alimenté par la société qui a survalorisé le rôle de ces minorités. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, quand bien même dans ces campus américains, les étudiants de droite ou conservateurs prendraient conscience que, ou en tout cas juste ceux qui se sentent pas représentés par les idées woke, prendraient conscience de leur majorité, je suis pas certaine qu'ils prendraient même le risque de le faire valoir, parce qu'ils auraient conscience que le fait même de faire partie de d'une majorité est déjà une faute en soi.
Oui, bah dans les campus, il y a un aspect, il y a un aspect spécifique, c'est que il ne faut pas seulement juger sa place par rapport aux autres étudiants, mais il faut souvent affronter l'administration, les autorités académiques et tout un appareil potentiellement répressif, comme je le disais. Bien, quand la majorité des professeurs sont de gauche, quand les vérités académiques sont, prétendues vérités académiques sont de gauche, bien évidemment, il est assez compliqué de défendre ses idées, non seulement, enfin, jusque dans ses copies. C'est-à-dire qu'il faut, prouver sa conformité à ces autorités-là pour espérer simplement obtenir son diplôme. Donc ça, évidemment, crée une forte complexité. Cela dit, lorsque les deux chercheurs américains dont je parlais ont publié leur étude, ils ont été contactés par un très grand nombre de professeurs qui eux-mêmes déclaraient subir une terrible pression, etc. Donc ça prouve qu'en réalité, on reste quand même dans cette idée qu'il n'est pas possible de faire un pas de côté, alors que probablement je ne conseille pas à tous les étudiants nationalistes ou identitaires de France de se découvrir dans les facultés, parce que je pense qu'il faut juger selon les cas. Alors que je pense qu'il peut être possible de le faire, par exemple, dans une fac de droit, mais pas nécessairement dans un institut d'études politiques. Quoique, hein, moi j'admire beaucoup le courage des étudiants de la cocarde étudiante, donc syndicat étudiant patriote, qui ont le courage de militer à visage découvert, de se présenter à des élections universitaires, et il me semble que tous ne finissent pas leurs études sans diplôme. Donc il reste quand même des marges de manœuvre, mais à évaluer, je pense, au cas par cas. Mais voilà, sans ce courage, on parlait du coût social et de cet auteur qui s'appelle donc Timur Kuran. Timur Kuran, en réalité, a travaillé à partir du choc qui a été pour lui l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il était absolument sidéré de voir à quel point cet empire idéologique s'était effondré sur lui-même extrêmement facilement. Et donc, il a consacré ses travaux à réfléchir à cela. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a découvert que tout dépendait du coût social. Et donc, sa thèse, c'est qu'au moment où Gorbatchev, dans les dernières années de l'Union soviétique, décide de lancer une politique qui a été appelée la glasnost et la perestroïka, et donc efficacité et transparence, pourrait-on dire. Enfin, cette transparence passait notamment par davantage de vérité sur la situation réelle du pays. Et tout un tas de Russes se sont dit « Ah bon, maintenant on peut dire la vérité ?» Et ils sont mis à parler librement, mais pas spécialement de façon militante. Ils sont mis à parler librement au café, chez eux, dans les appartements communautaires, dans les entreprises, dans les fabriques, les usines. Et le voile de mensonge s'est aussitôt déchiré, et tout le monde s'est rendu compte que dans tous ceux qui se méfiaient précédemment de ses collègues de travail, de ses amis, n'avaient pas à s'en méfier, car tout le monde pensait la même chose, que ce système était foireux, que ses présupposés étaient faux, et que tout cela devait être balayé. Et je pense que pour une large part, le progressisme hystérique est dans la même situation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas grand-chose pour montrer que le roi est nu. Voilà. En tout cas, c'est l'un des paris qu'on peut faire. Mais pour les premiers, ça demande un peu de courage, de fait.
Oui. Et puis
les premiers de cordée ont parfois un coût un peu rude à payer.
Mais c'est ça. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a ce problème de hiérarchie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans les universités, même dans les entreprises, en tout cas dans un bon nombre de cercles, ceux qui ont le pouvoir ne sont pas ceux qui partagent la vie de cette majorité silencieuse. Majorité silencieuse qui se retrouve souvent elle-même abandonnée par le peu de cadres et en tout cas c'est une forme de hiérarchie sur laquelle elle aimerait se reposer. Et en l'occurrence, là je fais un peu référence au Rassemblement National qui a tendance à se crisper autour de cette question et plutôt à se conformer à cette chape idéologique que vous décrivez, Xavier Van Lierde.
Ah oui, je veux dire que j'ai observé avec beaucoup de tristesse et un peu de colère, comme si même beaucoup de colère, la façon dont, suite à des délations, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de non-conformité idéologique de la part de journaux gauchistes comme Libération, le Rassemblement National a tendance à se séparer de tel ou tel cadre qui aurait été pointé du doigt par ces gens-là. Alors je pense que c'est une double faute. C'est une double faute à l'égard des gens qui sont engagés à ses côtés, mais c'est une faute encore plus vaste, car en obéissant à ces délations de la part de la presse gauchiste, en réalité, ils viennent valider la légitimité de cette presse à pointer tel ou tel. Pas seulement ses candidats. Mais si le Rassemblement National dit « Ah bah oui, Libération a eu raison de nous avertir » ou « Laisse croire que Libération a eu raison de les avertir sur telle ou telle brebis galeuse », comme ils disent. Eh bien, il légitime aussi la possibilité pour Libération de faire la chasse à d'autres gens de droite dans les entreprises, jusque dans la Banque de France, comme on l'a vu, où il y a quand même un haut cadre de la Banque de France qui est maintenant menacé d'exclusion, de voir sa carrière ruinée, parce qu'il aurait simplement liké quelques tweets de Sarah Knafo ou d'autres comptes de droite sur LinkedIn ou sur Twitter, je ne sais plus. Et donc, à chaque fois qu'on donne de la légitimité à un diabolisateur, eh bien, on remet une pièce dans la diabolisation, et pas seulement pour soi, pour l'ensemble de ceux qui ont le courage de résister à cette chape de plomb. Donc c'est une faute non seulement politique, ça les concerne, mais c'est aussi une faute morale à l'égard de tous ceux qui résistent à la dictature idéologique de la gauche dans le pays, dans les facultés, dans les entreprises, partout en réalité. Donc en fait, ils sacrifient l'ensemble de ceux qui, pourtant, au quotidien, se battent pour des idées proches des leurs et dont ils bénéficient quand même pour une part du travail. C'est pas très malin et ça manque de panache. Voilà, maintenant, je veux pas généraliser, je pense que ce sont des cas malheureux qui doivent être pointés et dénoncés, mais que par ailleurs, il y a probablement un début de prise de conscience au sein de l'appareil. Moi, maintenant, j'ai pour politique de ne plus généraliser mes critiques à l'égard de ce parti, mais d'essayer de faire du chirurgical. Donc, on va faire du chirurgical. Je pense, par exemple, que quelqu'un comme M. Chenu ou M. Tanguy devrait, semble-t-il, si c'est pas le cas, bien qu'ils le disent, mais vu leur prise de position publique, j'ai l'impression que c'est le cas, eh bien, devrait s'interroger sur cette façon de procéder face au lynchage de certains de leurs militants ou de leurs cadres par un journal gauchiste qui ne leur veut pas du bien.
D'autant plus qu'ils empêchent aussi l'apparition d'une nouvelle hiérarchie qui, à défaut de leur être plus favorable, serait peut-être au moins juste, plus juste justement avec eux, puisque en donnant du crédit, par exemple, à ces médias, ils ne peuvent, enfin, ils évitent par ailleurs de se tourner vers des médias qui, encore une fois, seraient plus honnêtes sur ces sujets. Donc c'est contre-productif, mais même sur le long terme, ils contribuent à installer ce système qui ne leur veut pas du bien.
Oui, exactement. C'est pourquoi les effets de ces décisions-là ne se résument pas seulement, elles sont ravageuses au sein, à mon avis, elles sont ravageuses au sein du RN, ça ne donne pas très envie non plus de s'engager à leur côté si on est lâché à la moindre bourrasque, mais par ailleurs, ça produit des effets dramatiques sur l'ensemble de la société. Il faut bien voir que cette chape de plomb de gauche et d'extrême-gauche, en réalité, est de nature totalitaire. Toutes les sociétés totalitaires, en fait, consistent à étouffer la vie telle qu'elle doit se déployer de façon spontanée et naturelle. Et donc, à chaque fois qu'on valide ces structures-là, eh bien, on empêche simplement le fonctionnement normal et le renouvellement normal des élites et la vie de la société voilà, se déployer, se renouveler, prendre en compte les nouveaux enjeux, laisser de nouvelles générations, de nouvelles idées éclore. Donc c'est réellement mortifère en réalité. Hein. Mmh. Et donc ils apportent... Timur Kuran explique que la façon dont les gens sont obligés de mentir, en réalité, n'est pas seulement immorale, mais qu'elle pose des problèmes d'efficacité très profonds à la société. Très profonds, puisque les cadres idéologiques totalitaires sont nécessairement rigides. C'est-à-dire qu'ils sont ils ne parviennent pas à s'adapter à la nouveauté. Si une nouveauté surgit, comme par exemple en France, je ne sais pas, l'immigration massive, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il pouvait être dans les années 50 ou 60, eh bien, forcer les gens à continuer à raisonner sur les anciens cadres, par exemple, à feindre de croire que l'assimilation, ça fonctionne, alors que on a 30 ans ou 40 ans de recul désormais pour savoir qu'elle ne fonctionne plus, eh bien, ça crée un vrai problème de fonctionnement de la société. C'est-à-dire qu'une société libre et normale s'adapterait à cette nouvelle donne et à cette réalité qui est apparue, que l'assimilation ne fonctionne pas. Par la chape de plomb de gauche et aux gens qui s'y soumettent, eh bien on continue à ratiociner et organiser la vie politique autour de concepts qui sont totalement morts. Donc c'est ça pose effectivement un vrai problème d'efficacité.
Pour en revenir au coût social, ce qui m'interpelle aussi, c'est que souvent on présente les conservateurs ou les gens de droite comme ceux justement qui exacerbent les fractures dans la société. Ce sont ceux qui ne veulent pas faire société, qui ont tendance à exclure. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, ce sont généralement ceux qui, au contraire, sont les plus soucieux de cette société, puisqu'ils sont terrifiés à l'idée d'en être exclus, là où la gauche en fait une forme de qualité et prête à revendiquer justement cette volonté de ne pas faire société avec tout le monde, exclure à outrance, mais même s'exclure soi-même par désir de pureté.
Oui, il y a à gauche depuis toujours une forme de pulsion de la purge. Hein, je ne sais plus si c'est les trotskistes qui disaient ça, mais il me semble que le parti se renforce en se purgeant et en excluant tous les déviants, et ils reproduisent évidemment cette forme de mentalité à l'échelle de la société. Mais sur les ravages que cela provoque, je voudrais évoquer le sort de... Parce qu'il ne faut pas oublier que l'étude américaine que j'évoquais, c'est une étude faite par des psychologues cliniciens. Et que initialement, en réalité, ils n'ont fait ce sondage que pour essayer de juger des effets de cette situation sur la santé mentale et psychologique d'élèves obligés de mentir. Et donc, si je me souviens bien, en fait, ils ont découvert que 38% de ceux qui sont confrontés à cette obligation de mentir se retrouvent en situation, en réalité, de détresse psychologique. Et pour une raison simple à expliquer, c'est que aujourd'hui, en Occident, en quelque sorte, l'adolescence se termine vers 20 ans. Alors que l'âge adulte est plus tardif qu'auparavant. Et donc, en réalité, cette obligation de mentir se produit dans une phase et une période de la vie où les nouvelles générations sont encore en phase de construction de leurs valeurs, de leur individualité, et que la seule façon de construire leur identité personnelle, eh bien, c'est de pouvoir justement confronter leurs idées, être dans le débat, se confronter au réel en quelque sorte, et que toute cette chape de plomb idéologique les empêche de se construire, et même parfois peut provoquer des pathologies beaucoup plus graves, qui est une perte de valeur attribuée au réel précisément, puisque le critère de la réussite étant la conformité et plus la vérité. Eh bien, on peut arriver à des cohortes entières d'étudiants et de jeunes qui vont considérer que la vérité, c'est secondaire. C'est secondaire puisque leur expérience à l'université leur aura laissé croire que, effectivement, dans la réussite et le bien-être, la vérité est plus un obstacle, et vivre en conformité avec ce que l'on pense est un obstacle plus qu'un atout. Et là aussi, on retrouve des pathologies, parce que comme ils sont très nombreux, ça peut avoir un effet dévastateur sur la société, et que l'on peut constater dans la Russie post-soviétique de l'immédiat après effondrement, où le capitalisme absolument débridé, mais de gangsters et autres, s'explique notamment par le fait que les gens n'étaient pas armés pour raisonner de façon morale, car pendant des décennies, ils avaient été plongés dans un empire qui était un empire de mensonges, et que ça avait très profondément déstructuré, j'espère provisoirement pour eux, leur façon d'aborder la vie en société, la vie avec les autres, leur devoir à l'égard de la société et de la collectivité, puisque de toute façon, tout était considéré comme bidon, relatif, mensonger, et avec des repères moraux qui étaient, dont chacun savait qu'ils étaient parfaitement faux, mais pas seulement au regard d'une vérité qui du coup apparaîtrait, mais comme un mode de fonctionnement. C'est-à-dire un mode de fonctionnement où les catégories vraies, pas vraies, n'avaient plus de place pendant une très longue durée. Et on peut redouter quand même que beaucoup d'étudiants soient confrontés aussi à cette situation extrêmement dévastatrice en réalité.
On finit sur ces mots. Merci beaucoup Xavier Van Liert d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse. Une fois de plus, la conclusion, c'est quand même que la gauche pue. Maïlys en sait quelque chose. Richard de Sèze aussi, on vous en parle régulièrement.
Et qu'il faut avoir le courage de la vérité.
Merci beaucoup Xavier Van Liert et je vous dis à la semaine prochaine.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles, merci d'être avec
Bonjour
nous.
Bonjour Lieslotte.
Vous êtes la tête dans les poutres ce matin, pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur X. Gilles Brochard est sous les combles.
Je suis dans un hôtel du côté de Pouligny-Montrachet, au cœur de la Bourgogne viticole.
Ça a l'air très joli, vous nous en direz des nouvelles à votre tour. Que se passe-t-il sinon du côté de la Maison-Blanche, mais aussi du côté du secrétaire d'État américain? Leur position semble assez contradictoire, Gilles.
Oui, alors que West France titre « Les États-Unis peuvent-ils mener une guerre longue ?», la presse dans son ensemble considère qu'il y a eu des propos contradictoires sur les raisons qui ont conduit les États-Unis à entrer en guerre avec Israël contre l'Iran. Comme l'écrit Hélène Vissière depuis le week-end, le président Trump, son ministre des Affaires étrangères et celui de la guerre, multiplie les déclarations contradictoires. Alors, lors de sa première apparition publique, lundi, le président a affirmé que les objectifs de l'attaque étaient clairs. Je dis bien clairs, mais il en a annoncé quatre. Détruire la marine iranienne, ses capacités de missiles, empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et enfin d'armer, de financer les groupes terroristes à l'extérieur de ses frontières. Il n'a pas donné plus de détails et vite passé à un thème qui lui est cher, la décoration de la Maison-Blanche. Mais lundi soir, Marco Rubio, le secrétaire d'État, a donné une autre explication de l'offensive militaire qui a fait l'effet d'une bombe. La Maison-Blanche, selon lui, a décidé de frapper l'Iran parce qu'Israël prévoyait d'intervenir. Or, on savait que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines, je cite, dans la région. Et pour cette raison, les États-Unis ont choisi de bombarder préventivement. Nous avons agi proactivement d'une manière défensive, a-t-il ajouté. Mardi, aux côtés du chancelier allemand, Donald Trump a nié l'idée qu'Israël l'avait obligé à agir. Ça serait plutôt moi qui lui ai forcé la main, a-t-il dit, ajoutant que les Iraniens allaient attaquer si on ne l'avait pas fait. Et le message sur les objectifs en Iran est le moins qu'on puisse dire confus, a résumé Matt Walsh, un commentateur conservateur très trumpiste. Et puis pour revoir le film de la chute du Shah d'Iran et l'avènement de l'Ayatollah Khomeini à 76 ans après 14 ans d'exil, avec la complicité du gouvernement français, je vous conseille de lire le récit qu'en fait Jean-Michel Demetz dans les colonnes de Valeurs Actuelles aujourd'hui. Et comme il l'écrit, dans les semaines qui précèdent la chute du régime impérial, à l'hiver 1978, la confusion domine tout. Même les Américains sont incapables de saisir avec justesse le mouvement révolutionnaire. À la fin du mois de décembre 1978, les manifestants gagnent en violence et le Shah prépare son départ. Et après avoir envoyé ses enfants et sa mère aux États-Unis, il charge un vieil opposant, Shapour Bakhtiar, de former un nouveau gouvernement de réforme et un conseil de régence. Et le souverain quitte l'Iran avec la Chabanou Faradiba aux commandes de son Boeing 707 le 16 janvier 1979 à 13h18 pour de longues vacances, comme il disait. Et presque au même moment, un violent séisme frappe alors le nord-est du pays, causant des centaines de morts. L'ayatollah Khomeini rentre en Iran le 1er février 80 sur un vol affrété par Air France. Il remplace le premier ministre qu'il qualifie d'usurpateur et Chapour Bakhtar se réfugie en France, où il sera assassiné, on l'a un peu oublié, il est assassiné à Suresnes par un sbire de la République islamique le 6 août 1991, à lire dans Valeurs Actuelles.
Et à la une du nouveau magazine Causeur, Sarah Knafo.
Oui, alors avec ce titre amusant, Alerte jaune sur Paris. Elle leur casse les codes. La candidate à la mairie de Paris donne un entretien à Elisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roch dans lequel elle affirme « Le vote utile, c'est moi ». Elle qui veut renverser la table, comme elle dit, part de ce constat. En 25 ans de règne socialiste, Paris a perdu 200 000 habitants. Il reste à Paris des étudiants, des touristes, des retraités qui ont eu la chance de pouvoir acheter un appartement, bon, c'est pas mon cas, hein, quand c'était encore possible, mais les jeunes actifs sont de plus en plus nombreux à quitter la ville dès qu'ils veulent fonder une famille. Et regardez les villes voisines, Levallois, Saint-Mandé, Vincennes, là-bas vous voyez des poussettes partout, dans les parcs. Aujourd'hui les écoles ferment et les gamins sont partis. Alors elle le répète, si elle est élue, elle proposera la première heure de stationnement gratuite pour tous, reviendra à la gratuité pour les deux roues, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et la gratuité également entre midi et 14h pour aider les restaurateurs en augmentant leur pouvoir d'achat. Ce n'est plus possible de budgétiser 36 euros de stationnement avant d'avoir commandé son plat, dit-elle. Ensuite, 5 euros de l'heure, quel que soit le véhicule et l'arrondissement, et extension du tarif résident à tout l'arrondissement. Alors, Sarah Knafo propose aussi de rompre définitivement avec ce qu'elle appelle l'idéologie du fonctionnalisme architectural. Elle veut rétablir le mobilier urbain iconique de Paris en remplaçant les bancs, les corbeilles de rue, les abribus et les kiosques à journaux avec des modèles fidèles à l'identité esthétique de la capitale. Voulant renouer avec les principes du baron Haussmann, Sarah Knafo veut aussi renouer avec cette exigence du beau, comme elle dit, qui a fait de Paris la plus belle ville du monde. À lire aussi dans le même causeur un portrait de Sarah Knafo par Eric Nolot, assez drôle, et un reportage sur une journée passée auprès d'elle lors de sa visite dans le 14e arrondissement auprès des commerçants. C'est assez passionnant. Voilà, à lire dans Causeur.
Mmh. Bah, et Richard de Sesse vient de s'entretenir avec Alain Pocard à notre antenne sur l'esthétisme parisien, justement. Donc, oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un beau point de programme.
Beaucoup de choses à dire là-dessus. Absolument. Ouais. La beauté, c'est aussi une des conditions de notre patrimoine commun.
Bah, oui. Une campagne électorale qui se prépare dans les mairies, évidemment, Gilles.
Oui, alors hier, le Parisien révélait que pour un trait d'union oublié dans le prénom Marie-Thérèse, 25 000 bulletins de vote déjà imprimés ont fini à la poubelle. Ce sont les bulletins d'un candidat d'hiver gauche à la mairie de Nogent-sur-Oise. Même opération dans l'Oise, dans l'arrondissement de Senlis, où les bulletins de 19 candidats ont été retoqués pour des tirés ou des accents manquants. Et aujourd'hui, le Parisien et aujourd'hui en France racontent le long parcours des enveloppes dites de propagande électorale, impression mise sous pli et livraison, un parcours bien huilé pour les 827 000 enveloppes délivrées dans le Val-de-Marne. Les journalistes racontent l'effervescence qui règne chez l'imprimeur CF1 Technologies dans l'Essonne, qui utilise 30 tonnes de papier, 5000 cartons, à faire transiter vers les 47 communes du département. Une logistique supervisée par la visite du préfet du département mercredi dernier. L'impression des coordonnées des destinataires sur les enveloppes se fait ville par ville et ce sont les municipalités qui doivent ensuite remplir les enveloppes avec la profession de foi et les bulletins de vote que les candidats doivent leur avoir fait parvenir d'ici vendredi. Puis confier les enveloppes à la poste, mardi prochain, dernier délai. Mais les Parisiens... Le Parisien commet une petite erreur en écrivant « pour une arrivée dans les boîtes des électeurs autour du 13 mars ». Non, avant le 12 mars, c'est le jour des élections, donc il vaut mieux avoir les enveloppes deux jours avant. Comme quoi, Liselotte, parfois, on ne se relie jamais assez.
Merci Gilles pour cette revue de presse, et puis vous restez avec nous pour la Zone Libre.
Zone Libre.
Bon, soit on continue de parler de politique, Gilles, soit vous nous parlez de la Bourgogne, de là où vous vous trouvez, et on offre une respiration aux auditeurs. Je vous laisse responsable de ce choix.
Oui, vous savez que j'aime bien aller régulièrement en province, bon, faire des reportages, mais surtout prendre la température un peu de ce qui se passe. On est dans une des plus grandes régions de France qui est la Bourgogne. Je suis à Pouligny-Montrachet, c'est-à-dire à peu près 15 minutes en voiture de Beaune. Alors évidemment, dans cette région, il faut goûter du vin, ce que je m'apprête à faire avec des viticulteurs. Et là, ici, je suis au Como le Montrachet, qui est un très joli hôtel qui est situé sur la place. Vous voyez comme quoi on a préservé cette place. Tout est, vous savez, la Bourgogne, c'est la pierre de Bourgogne. Donc, c'est une pierre un peu blanche qui est assez magnifique, qui, sous les rayons du soleil, il va faire 15 degrés aujourd'hui. Et ben, ça donne un éclat particulier. Et je suis content, si vous voulez, de voir qu'ici, alors c'est un village, il y a 300 habitants, hein, c'est vraiment petit, de voir que c'est un patrimoine à la fois religieux, culturel, qui est préservé. Et ça, ça vient aussi des mairies. Il faut rendre hommage à ces petits maires qui font beaucoup, pierre par pierre, pour préserver ces hôtels particuliers, ces bâtiments, avec une unité, hein, vous savez, comme dans certaines régions de Bretagne ou au Pays Basque, on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi.
Oui, et même d'ailleurs en région parisienne, c'est, par exemple, c'est le cas à Versailles aussi, il y a des couleurs qui sont autorisées pour repeindre les volets, par exemple. Pour,
exactement, mais le maire est assez dynamique là-dessus, oui.
Oui. Et c'est intéressant ce que vous nous dites sur la pierre. C'est vrai que les pierres blanches de Bourgogne sont très particulières parce que contrairement à d'autres pierres d'autres régions, elles ont la particularité de refléter le soleil de façon très chaude et chaleureuse.
Ah oui.
On n'est pas sur de la pierre blanche froide. Oui. Voilà, c'est un détail.
Et puis on n'est pas loin du canal de Bourgogne qui remonte vraiment jusqu'à la Seine. D'ailleurs, on dit que la Seine, c'est simplement un affluent de ce canal et de l'Yonne. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on peut traverser la France. Sylvain Tesson l'a fait par les chemins noirs. On peut le faire par les canaux, par les fleuves, par les rivières, les sous-bois, et voir que c'est toute une politique géographique qui est merveilleuse et qui surtout donne un relief à la France tellement particulier de région en région et de département en département.
Et puis même quand on a du temps, déjà, le faire en voiture. Alors, les trains sont magnifiques, on passe à travers champs.
À vélo, il y a beaucoup de vélos ici.
Mais en voiture, éviter, même l'autoroute, c'est joli, mais éviter de prendre l'autoroute. Alors, c'est souvent beaucoup plus long, mais c'est plus économique. Et ça permet de passer à travers de magnifiques villages, villes de province. C'est très agréable, vous pouvez faire le café.
Hier, je suis arrivé par le train jusqu'au Creusot, donc c'est le premier arrêt avant Lyon. Et puis ensuite, vous prenez une voiture qui vous emmène dans ces chemins à travers la forêt et le long du canal. Et je peux vous dire, vous pouvez louer une petite péniche et passer 2-3 jours comme ça à bord de cette péniche avec les écluses au rythme du canal. C'est absolument merveilleux.
Bon, mes chers auditeurs, si vous ne saviez pas quoi faire pour vos prochains jours de congé, j'espère que tout ça vous a donné envie. Et puis bon, bah Gilles, j'espère que vous nous rapporterez de bonnes choses de Bourgogne.
Là, j'ai des petits financiers j'ai pensé à vous, des petits financiers du chef pâtissier qui sont absolument délicieux.
Bah, j'en veux un.
Je vais déguster à votre santé.
C'est gentil. Puis si jamais vous n'avez plus faim, n'hésitez pas à m'en rapporter. Moi, j'ai toujours faim.
Est-ce que vous serez là demain, Gilles, avec ce que vous allez goûter aujourd'hui ?
Demain, je serai encore là, on fera un direct quand même de là où je serai. Ouais.
Bon. Et doucement sur les dégustations de vin. Merci, Gilles. Bonne journée. Profitez bien et à demain. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce programme. Beaucoup de sujets sérieux, un peu de digression à la fin, mais on espère que vous appréciez cet équilibre. Le direct sur YouTube et sur X prend fin. Néanmoins, vous pouvez continuer d'écouter la radio sur la bande FM ou sur rc.fr. Et surtout, si vous nous quittez, pensez à faire un don à Radio Courtoisie. C'est très important. On a parlé de France Télévisions aujourd'hui survit grâce à vos impôts. Vous n'avez pas le choix de leur donner de l'argent. Pour Radio Courtoisie, vous pouvez nous aider. Vous savez pourquoi vous le faites. Donc voilà, c'est important.
Soutenez les médias alternatifs et évidemment Radio Courtoisie, première d'entre elles, avec cette force qu'elle a, c'est la bande FM, les fréquences en province, évidemment sur Paris et aussi en DAB+. Donc il faut nous soutenir pour nos coûts de fonctionnement et surtout pour notre développement qui est déjà engagé mais qui a besoin de moyens nécessaires pour plus de reportages, plus de contenu et plus de choses à vous offrir. Soutenir.rc.fr, c'est la page internet où vous pouvez faire votre don en fonction de vos moyens. Soutenir.rc.fr, merci.
Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en reportage grâce aux donateurs avec Alexandre de Galzin qui est avec Pierre Gentier. Vous en saurez plus prochainement. Tout de suite, Iran, le conflit va-t-il durer ? C'est avec François Martin.
Ligne droite. Debout les Français.
La capacité à durer dans le temps dans un conflit est donc primordiale. Magda Hautefeuille vient de vous le démontrer brillamment. Et c'est la question qu'on se pose tout de suite avec François Martin. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte, je me pose une question. D'abord, où est le coq ? Je ne le vois pas. Il est caché sous la table ou bien...
Il est...
Ce n'est pas un coq, c'est un cochon en fait.
C'est un cochon, François Martin, il est sur la table. Mais il est toujours là, il y en a même un autre sur le mur pour tout vous dire, chers auditeurs. Nous avons des petits cochons dispersés dans le studio et on fait pénitence lorsqu'on prononce un mot en anglais. Voilà, ce sont des tirelires en fait. Comme ça, tout le monde donne pour Radio Courtoisie. Bon, on va parler d'Iran quand même, François Martin. Donc sur cette question de la durée précisément, aujourd'hui il faudrait être Madame Irma ou un très bon prophète pour pouvoir... déterminer combien de temps le conflit va durer. Néanmoins, on a quand même quelques outils pour essayer de se projeter. Oui. Magda Hautefeuille le disait encore une fois, les capacités économiques des belligérants sont primordiales. Oui. Voilà, quelle est votre analyse, vous, sur la question ? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose qui s'installe ? Est-ce que les Occidentaux doivent s'inquiéter ? On sait que ça aurait des implications, par exemple, sur le prix du pétrole. Dites-nous tout.
Alors, d'abord... l'analyse de madame me paraît correcte. La question de la durée me paraît effectivement être très importante. C'est même la question principale. Alors, il y a plusieurs réflexions préalables qui permettent de faire comprendre le conflit. L'une d'entre elles, c'est, je dirais, par-delà l'organisation et la logistique exceptionnelle de cette affaire, une certaine forme d'improvisation, je veux dire. Deux aspects pour ça. L'un, c'est que ce qui était prévu, en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas le scénario qui était prévu, puisque ce qui était prévu, c'était que la flotte que les États-Unis avaient fait venir de mer de Chine, elle devait être arrivée pour soutenir les émeutes et la sédition, éventuellement bombardée à ce moment-là. Or, le timing n'a pas été respecté, puisque quand la flotte est arrivée, la sédition avait déjà été matée, elle était terminée. Donc la flotte s'est retrouvée là, disons, dans un scénario dans lequel elle n'était pas prévue, et je pense que ça a compliqué les choses. Un deuxième aspect d'improvisation, c'est que je pense, plusieurs éléments tendent à le prouver, qu'en fait, il y a eu un round de négociation, comme on le sait, et qu'à un moment donné, le round de négociation a été interrompu par la frappe. Et mon avis, moi, c'est que, en fait, le plan qui était prévu était le plan de la négociation et que les Israéliens, à un moment donné, ont proposé aux Américains de taper. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient au courant, à cause de fuites, du rendez-vous qui a eu lieu avec le chef de la révolution, avec l'ayatollah Khamenei, où il y avait plus d'une quarantaine de personnes. Et ça, je dirais, c'est une erreur absolument majeure des Iraniens qui ont fait confiance aux Américains et qui ont dit « bon, ben, on est en train de négocier, donc on est dans un système de paix ». Et les Israéliens, comme ils l'ont déjà fait au moment où ils ont tiré sur la délégation du Hamas, on s'en souvient, à Doha, ont dit « bon, ben, on a une occasion extraordinaire de couper la tête de ce régime ». Et alors on y va, et Trump a sauté sur l'occasion. J'en veux pour preuve le fait que personne n'a été prévenu dans cette affaire, ce qui est tout à fait anormal. Les Européens, les alliés européens n'ont même pas été prévenus. Le Congrès américain n'a pas été prévenu, personne n'a été prévenu. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait anormal. Et l'autre élément qui est très important à comprendre, c'est que je pense que Trump a été trompé, si je veux dire. Les Israéliens ont trompé Trump. Alors ça aussi, c'est très important de le comprendre. Et j'en veux pour preuve une affirmation qui est venue par Seymour Hersh, que vous savez, c'est le grand journaliste américain, celui qui a montré le poteau rose concernant la destruction du pipeline Nord Stream par les Américains. Et Seymour Hersh, qui a très bien introduit au sein des renseignements, a eu accès, semble-t-il, aux documents qui transmet aux renseignements américains les analyses provenant du Mossad. Et ceux-ci disent deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que les Iraniens n'ont pratiquement plus de missiles, alors que tous les spécialistes vous disent qu'ils en ont des centaines et même des milliers, donc pratiquement plus de missiles, que la guerre des 12 jours avait pratiquement épuisé tous les missiles, et d'autre part qu'ils avaient l'absolue certitude que si on décapitait le régime, le régime s'effondrerait en une semaine. C'est pour ça que Trump a pris le risque, qui est un risque énorme, en fait, de monter une guerre avec un scénario d'une semaine, parce qu'en fait, les missiles dont disposent les Américains, et ça, c'est vrai, et tous les spécialistes le savent, elles permettent aux États-Unis de tirer une semaine, deux semaines, trois semaines, maximum. Donc en fait, Trump est dans la situation où ses copains lui ont dit « Vas-y, mets la main là-dedans, dans le tronc de l'arbre, il y a du miel à l'intérieur. » Il a mis la main et maintenant il se trouve qu'il a mis la main dans un essaim de guêpe. Donc la situation de Trump, en fait, est très dangereuse, très, très dangereuse. Les Iraniens ont fait exactement ce qu'ils avaient décidé, c'est-à-dire, premièrement, la guerre sera régionale, c'est-à-dire on tapera sur les intérêts américains dans le Golfe, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont pour l'instant réservé la deuxième étape qui consiste à taper sur les champs pétroliers, et s'ils le font, ce n'est pas à $200 que montrera le pétrole, c'est à $820,000. Donc ça, c'est la première chose. Ils l'avaient dit, ils l'ont fait. La deuxième chose qu'ils avaient dit, c'est qu'ils fermeraient le détroit d'Hormuz, c'est ce qu'ils ont fait. Et la troisième chose qu'ils ont dite, et qui pour l'instant, à mon avis, ils conservent comme une menace sans le faire véritablement, c'est couler un des bateaux américains. Et si ça se passe, Trump est vraiment dans une situation très grave. Pourquoi ? Parce qu'il est censé, il ne peut absolument pas se permettre de lancer une opération celle-là sans avoir l'aval du Congrès et sans prouver au Congrès qu'il y a une menace imminente pour les États-Unis. Or, le Congrès a demandé au chef de l'armée américaine d'être auditionné, je crois que Marco Rubio l'a été aussi, j'en suis sûr même, et ils ont dit une chose, c'est qu'il n'y avait pas de menace immédiate pour les États-Unis. Donc ça veut dire que Trump a mis son pays dans le danger d'une guerre, alors même que le risque n'était pas celui-là. C'est très clairement un risque d'impeachment, à mon avis, pour Trump, dans une situation comme celle-là. Donc moi, ce que je pense, et c'est la conclusion à laquelle je vous propose, je ne pense pas que la guerre va durer longtemps, non pas parce que les Iraniens vont être cassés, parce qu'en fait, le régime est beaucoup plus solide que ce qu'on peut, et je peux le détailler si vous voulez, mais surtout parce que Trump va se rendre compte qu'il s'est fait avoir, il va se rendre compte très très vite, je pense qu'il s'en est déjà rendu compte, qu'il était trompé par ses amis israéliens, et il va nous faire ce qu'il a déjà fait avec les outils, c'est-à-dire non pas courage fuyons, mais victoire fuyons. Ça y est, j'ai obtenu ce que j'ai eu, je suis vainqueur, on peut partir, et puis il va foutre le camp. Parce que si jamais il y a un bateau qui est coulé, il se met avec des centaines de morts, il se met par rapport à son Congrès dans une situation absolument impossible, puisqu'il est aujourd'hui totalement prouvé que les États-Unis n'étaient pas en danger dans cette affaire. Donc voilà un peu ce que je pense. Ça risque d'aller, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, Mais je pense que ça peut peut-être s'en sortir. Et alors, le paradoxe, c'est que si c'est le cas, pour arrêter de taper, les Iraniens exigeront la levée des sanctions et ils risquent d'avoir, dans une négociation à chaud de sortie de guerre, des conditions meilleures que celles qu'ils avaient acceptées lors de la négociation qui n'a pas abouti, puisqu'ils avaient accepté de rendre les 400 kilos d'uranium enrichi, ce qui était quand même une avancée pour les Américains qui était énorme. Alors, ils ne pensaient pas le donner, je pense, aux Américains comme c'était demandé, mais aux Russes, mais en tout cas, ils se seraient privés de leur enrichissement civil pour la levée des sanctions, et ils risquent d'être dans une situation qui est meilleure. Alors, je compléterai très rapidement en disant que si les Américains nous font le coup des outils où ils ont fait une signature d'une paix séparée, ils ont eu tellement peur de se faire taper un bateau qu'ils ont arrêté les frais, ils ont signé une paix séparée avec les Houthis et ils n'ont même pas exigé des Houthis qu'ils arrêtent de taper sur Israël. Donc là, il risque de se passer la même chose, je pense. Il risque de se passer la même chose, mais si c'est le cas et que les Iraniens continuent à taper sur Israël, je pense pour ma part que les Iraniens, à un moment donné, s'arrêteront. Parce que autant ils veulent donner une bonne leçon à Israël, ils veulent qu'Israël arrête de les bombarder, mais par ailleurs, ils ne veulent pas non plus mettre Israël dans une situation où Israël puisse dire « nous sommes aux abois, donc nous sommes justifiés pour tirer une bombe nucléaire ». Donc je pense, comme pendant la guerre des 12 jours, que les Iraniens s'arrêteront à ce moment-là pour ne pas se mettre en danger nucléaire. Donc voilà. Donc cette guerre peut, je ne dis pas qu'elle va, mais contrairement à ce que disent pas mal de gens, je pense que la guerre, si les choses se passent comme ça, et si Trump a une réaction intelligente en disant « oulala, je me suis fait couillonner, je ne vais pas risquer 2 millions de dollars sur le tapis de poker parce que je vais me les faire ramasser, et après j'aurai le Congrès en face de moi qui ne va pas me rater », ça risque de se terminer, je vous dis, par victoire Fuyon. Voilà, c'est ça que je pense.
Bah, merci pour votre analyse, François Martin. On va suivre tout ça et puis on essaiera de rester attentif également aux interventions européennes dans ce conflit, parce que Maëlys Clauzel nous le disait ce matin, il y a déjà Emmanuel Macron qui envoie des porte-avions et autres. Donc on suivra tout ça de très près et puis on ne manquera pas de vous réinviter pour poursuivre cette analyse. Merci beaucoup François-Martin.
Je peux simplement rajouter une toute petite chose, c'est que là on est véritablement dans la posture avec Macron parce que l'Europe ne sert strictement à rien. Bon, ils vont envoyer quelques avions pour la raison que je dis, et les Anglais aussi, parce que les Américains sont totalement à court de munitions et qu'on sait que dans 15 jours ils n'ont plus rien pour taper. Mais ça va rajouter quoi, une petite goutte de plus dans le breuvage, mais ça ne changera rien du tout à la situation stratégique.
Ça permet à Emmanuel Macron de se mettre dans une certaine posture. Comme
non, mais il viendra au Moyen-Orient entouré de six rafales, je pense.
Merci François Martin, à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette matinale. On vous rappelle qu'on compte sur votre aide pour soutenir la radio.
Pour soutenir la radio, c'est très simple, vous pouvez en parler autour de vous, ce qui est bien, partager nos contenus, nous rejoindre sur les réseaux sociaux et faire un don en fonction de vos moyens sur soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci.
Quel sera le programme de la journée?
Dans quelques secondes, en direct, christianisme et politique, la doctrine sociale de l'Église dans Au fil des pages de Benoît Mancheron. À midi, le libre journal du Nouveau Monde d'Evelyne Josselin. Aujourd'hui, où en est le Canada? Où en est Carnet lui-même? Quid des tensions avec les États-Unis? À qui la faute? À 14h, la tête hors de l'eau de Catherine Rouvier face à l'imposture de l'art contemporain, la beauté du monde. 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Posa pour Transition cachée. 17h30, restons courtois, aujourd'hui en compagnie d'Arthur de Vatrigan, Quel monde pour demain. 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafond. Au programme hommage au professeur de Heuvels, récemment disparu, vous le savez, et puis à nouveau l'obscurantisme contemporain. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer pour le réalisme politique. Et enfin, à 23h, la soirée musicale en compagnie de Claudia, aujourd'hui Debussy, Rameau revisité par Vingingsur Olafsson, si je prononce bien, et on verra comment elle fait ce soir.
Demain, on se retrouve à 7h, on reçoit notamment Laurent Oberton et puis Alexandre de Galzin qui rentre de son reportage avec Pierre Gentillet. Donc rendez-vous demain 7h et bonne journée.
Bonne journée.